l'identité de l'organisateur est extrêmement importante. Et même si, effectivement, la dimension politique n'est pas mise en avant, on peut penser que quand même, il y a une dimension politique et que ici le dialogue des religions est moins dans le sens d'échange des spiritualités ou des expériences religieuses et spirituelles que quand même avec une très forte dimension politique qui est une façon, à mon avis, un peu cachée de faire un peu une forme de diplomatie géopolitique et de parler plutôt que de dialogue d'ailleurs des religions, de dialogue des cultures.
Comment analyser l'évolution de l'Arabie Saoudite ?
C'est un fondamentalisme d'État très restrictif, très fort, qui ne laisse pratiquement aucune place au pluralisme religieux sur le plan interne. Mais en revanche, ses ambitions géopolitiques, qui est de redevenir un véritable leader dans le monde arabe, allié, je dirais, d'une part avec l'Union européenne et les États-Unis, la pousse, l'incite à jouer de plus en plus sur ce registre du dialogue des religions pour apparaître un peu comme un pacificateur, un médiateur, un opérateur de dialogue entre ce qu'ils perçoivent eux-mêmes comme différents représentants des religions et des cultures, mais avec toujours ce risque de transformer le dialogue des religions en dialogue des cultures, voire même en une sorte d'arme géopolitique et diplomatique, ce qui n'est pas véritablement, je dirais, au départ, la vocation du dialogue des religions, qui est d'abord un dialogue entre croyants et pratiquants. Les Saoudiens, vous savez, c'est un pays où la religion est d'État, c'est un fondamentalisme d'État extrêmement strict, laissant très très peu de place, je dirais, au pluralisme religieux, même pour les minorités musulmanes en Arabie Saoudite. Alors, on parlait en plus des autres religions, ça serait plus dramatique, mais en revanche, l'Arabie Saoudite a véritablement l'ambition aujourd'hui de reprendre le leadership dans le monde arabe, notamment dans le contexte de crise irakienne, et le religieux est un de ses vecteurs de ce rapprochement à la fois diplomatique et géopolitique.
C'est dû également au changement de roi ou au contexte régional ?
Moi, je pense qu'il y a effectivement l'évolution de cette monarchie, le contexte régional. Vous savez que l'Arabie Saoudite est quand même très fortement impliquée aujourd'hui dans la guerre en Irak, hein, puisqu'elle est le principal allié, l'un des principaux alliés des États-Unis. Il y a une très très forte contestation interne. Il ne faut pas oublier que l'Arabie Saoudite aujourd'hui connaît des mouvements de contestation radicaux qui contestent même la légitimité du pouvoir actuel et que pour l'Arabie Saoudite, jouer cette carte du dialogue interreligieux, c'est une façon de se réaffirmer, je dirais, à la fois comme leadership arabe, dans un contexte où elle est de plus en plus décriée comme un peu l'allié des États-Unis dans ce que certains appellent l'occupation de l'Irak. Donc, on comprend bien que pour l'Arabie Saoudite, ce dialogue interreligieux est une façon de reprendre en main, je dirais, ce leadership et d'apparaître plutôt comme le rapprochement entre des religions et notamment, disons-le, entre la religion musulmane et les différentes religions chrétiennes. Donc je dirais que le contexte interne, oui, l'explique, fragilité interne, mais surtout fragilité à l'échelon régional d'une Arabie saoudite qui se trouve de plus en plus décriée, du moins la monarchie saoudienne, pour son alliance trop visible avec les États-Unis sur le dossier irakien. Mais en même temps, avec cette tendance, on l'a vu dans le jeu du Liban également, à vouloir intervenir comme médiateur pour se recrédibiliser, se racheter d'une certaine manière une virginité auprès du monde arabe et d'une manière plus générale auprès du monde musulman. La monarchie saoudienne indirectement gère les lieux saints de l'islam, mais elle a toujours aussi cette vocation, il ne faut pas l'oublier, pour comprendre que l'Arabie saoudite, le royaume saoudien, veuille jouer cette carte du dialogue, notamment avec le Vatican. Il ne faut pas oublier que l'Arabie saoudite, effectivement, veut jouer aussi un leadership au niveau musulman face à une concurrence, si je puis dire, de plus en plus forte, qui est celle du chiisme iranien, qui a retrouvé un certain prestige dans le monde musulman en résistant sur le dossier nucléaire, entre guillemets, aux États-Unis, mais aussi à travers indirectement la question libanaise et, je dirais, les victoires, là aussi, entre guillemets, du Hezbollah sur Israël. Donc on comprend que l'Arabie saoudite utilise à fond cette carte, je dirais, de gardien des lieux saints de l'islam pour se redorer auprès du monde musulman face à ce qu'elle perçoit comme une concurrence chiite, une tentative de renversement de l'hégémonie sunnite, à travers notamment le bloc, on va dire grosso modo, Iran, et indirectement, bien sûr, la carte libanaise, et encore indirectement aussi, je dirais, le pouvoir chiite aujourd'hui en Irak.
À cette conférence seront présents des représentants musulmans, chrétiens, mais également juifs et même bouddhistes. Est-ce que la question des minorités religieuses dans le bassin méditerranéen et au Moyen-Orient sera abordée ?
Écoutez, moi je pense que c'est un dossier extrêmement important qui malheureusement est toujours tabou. On le voit bien pour la situation des chrétiens au Maghreb, on le voit bien aujourd'hui pour ce qui est notamment de la réflexion sur ce qu'est aujourd'hui ces États du monde arabo-musulman qui ont fait fi quand même une grosse partie de leur minorité à leur indépendance, que ce soit les minorités chrétiennes mais aussi bien sûr les très fortes minorités juives. Je pense que malheureusement ce dossier sera relativement abordé. Il faut souhaiter qu'il le soit parce que c'est facile de dialoguer avec des religions quand elles sont perçues comme extérieures, comme elles sont perçues comme des religions appartenant à une autre culture, à d'autres continents. Mais il est beaucoup plus difficile, en revanche, de discuter de la question interreligieuse à l'intérieur. Et là, effectivement, ça reste un des tabous dans le monde musulman, notamment dans le monde arabe, même si la plupart, entre guillemets, de ceux qui pratiquent ces confessions minoritaires sont considérés comme des citoyens, malgré tout, ils sont toujours perçus comme minoritaires et donc, quelque part, il faut bien le dire, comme des demi-citoyens. Donc, il faut espérer que la question des minorités religieuses, des minorités chrétiennes, mais aussi de l'ensemble des minorités du monde musulman soit abordée, ce qui serait, à mon avis, le plus grand pas en avant, le plus grand pas accompli, le plus grand progrès, mais toujours avec cette limite, c'est que ça reste un tabou. On le voit bien sur la question des chrétiens d'Algérie et on le voit bien sur le droit des minorités religieuses aujourd'hui dans les pays du Golfe, qui ne sont absolument pas respectées, puisque certaines minorités religieuses sont même obligées de se cacher pour pratiquer leur culte, comme les chrétiens, je dirais, à l'époque de l'Empire romain. Vous voyez, donc, à ce niveau-là, on peut dire que c'est un dossier tabou, mais c'est un dossier qui révèle aussi l'ambivalence de ce dialogue interreligieux, puisqu'il ne touche jamais les questions internes.
Est-ce que vous pensez que cette conférence va marquer un tournant dans le dialogue interreligieux et une inflexion de la politique saoudienne ?
Si vous me demandez mon avis personnel, je dirais pas véritablement, justement pour les raisons que nous venons d'aborder, c'est que l'Arabie saoudite est encore, je dirais, l'incarnation d'un certain fondamentalisme d'État avec une prétention hégémonique à travers ce qu'on appelle aujourd'hui le wahhabisme et le salafisme, qui est justement une conception extrêmement littéraliste de l'islam et qui, on voit bien les effets aujourd'hui sur un certain nombre très minoritaire, faut bien le dire, de musulmans d'Europe et notamment de musulmans de France qui ne prennent pas l'ouverture mais plutôt un certain repli communautaire. Donc je dirais que peut-être que diplomatiquement, politiquement, oui, ça peut être une avancée, mais vraiment comme carte géopolitique, c'est-à-dire l'utilisation du religieux comme volonté de se racheter une place sur le plan de la région, sur le plan géopolitique, mais en termes véritablement de dialogue, de croyance, d'ouverture aux autres religions, de partage de spiritualité, je crains que malheureusement, on n'assiste pas à d'énormes progrès, à d'énormes avancées, tant qu'effectivement, cette question des religions d'État ne sera pas posée dans le monde musulman, puisque vous savez, qui dit religion d'État dit aussi production de minorités religieuses, et parfois même non-reconnaissance de ces minorités religieuses. Du côté du Vatican, même si je ne suis pas dans le secret du Vatican, mais il faut bien dire qu'il y a aussi cette question qui sera peut-être abordée, alors peut-être pas officiellement, mais peut-être ce qu'on appelle effectivement dans les couloirs, dans les négociations de couloirs, la question effectivement des minorités religieuses et notamment des minorités chrétiennes directement rattachées au Vatican ou pas dans le monde musulman. Et là, il est possible que le Vatican veuille jouer cette carte, je dirais, notamment de passer par l'Arabie saoudite qui a une certaine influence aujourd'hui non négligeable sur les musulmans, puisqu'elle est quand même gardienne des lieux saints de l'islam, pour aborder ce dossier ultra problématique, ultra tabou des questions des minorités chrétiennes. Mais il est aussi possible que le Vatican veuille favoriser ce dialogue, même si il en perçoit les limites, même s'il en perçoit les ambiguïtés, pour peser dans ce qu'on appelle aujourd'hui le problème ou le conflit israélo-arabe, à travers notamment le rapprochement des religieux musulmans avec un certain nombre de religieux juifs, attachés ou pas à Israël. Donc je dirais que le Vatican, là aussi, peut avoir ce souci d'être un opérateur de paix, un médiateur de pacification dans la région. Et donc, en donnant sa caution à ce dialogue, elle est aussi, le Vatican aspire aussi peut-être à un rapprochement judéo-musulman, mais plus largement, je dirais, à une résolution du problème israélo-arabe.
L'Union pour la Méditerranée a été lancée à Paris. Est-ce que cette nouvelle union peut peser dans le dialogue interreligieux ?
Alors, elle pesera, mais là toujours, je vous dis, avec un risque de confusion, c'est que le dialogue interreligieux est d'abord un dialogue de croyants et de pratiquants. Il faut bien le dire, de gens qui partagent une vraie vie spirituelle, une pratique. Or, là aussi, s'il y a une influence entre les deux, il y a aussi un mélange des genres et Ce mélange des genres, il faut quand même le reconnaître, il existe, et notamment la future conférence organisée par l'Arabie Saoudite, qui s'ouvrira demain, participe un peu à ce mélange des genres. C'est-à-dire que, vu la situation de blocage total qu'il y a aujourd'hui dans une partie du monde arabo-musulman, vu cette réémergence de ce qu'on appelle le fantôme de la guerre des civilisations, vu la percée du radicalisme et du fondamentalisme destructeur et meurtrier, il est clair qu'aujourd'hui, la carte du dialogue entre les religions peut apparaître comme une carte de pacification, mais avec toutes les limites que l'on connaît, c'est-à-dire également comme pour l'Union méditerranéenne, c'est d'abord des négociations au sommet, c'est d'abord des négociations souvent intergouvernementales, sinon d'agences liées au gouvernement, sinon à des élites, et donc qui finalement touchent relativement peu les croyants ou les groupes de croyants ordinaires. Donc oui, pacification, comme l'Union méditerranéenne, comme la conférence de demain, oui, rapprochement entre les peuples, mais je dirais dans une perspective qu'il faut bien qualifier de relativement élitiste par le haut et qui touche finalement peu la vie des croyants ordinaires, qui touche peu les consciences des croyants ordinaires, qui eux, parfois, sont victimes de ces représentations en termes de guerre des civilisations, de guerre des religions, de résurgence d'une guerre des religions, du croisade et du djihad par et d'autre.